Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le secret du Veda est un essai d'interprétation religieuse, philosophique et philologique dans lequel Sri Aurobindo propose de relire le Rig Veda au-delà de son sens rituel, cosmologique ou historique immédiat. L'ouvrage défend la thèse que les hymnes védiques emploient un langage symbolique destiné à transmettre une expérience intérieure de la conscience. Les divinités, le sacrifice, la lumière, les eaux, le voyage et le combat y recevraient ainsi une portée psychologique et spirituelle. Aurobindo s'oppose aux lectures qui réduisaient les hymnes à une poésie primitive consacrée aux forces de la nature ou aux intérêts matériels d'une société ancienne. Son objectif n'est pas seulement de valoriser le Veda, mais d'établir une continuité entre sa vision des rishis et les formulations métaphysiques plus explicites des Upanishads. Le livre alterne examen des principes d'interprétation, discussion sur la langue et analyse de motifs védiques. Il s'agit donc moins d'une introduction générale au védisme que d'une défense argumentée d'une herméneutique ésotérique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le Veda comme langage à plusieurs niveaux de sens. La proposition centrale du livre est que les hymnes du Rig Veda ne doivent pas être enfermés dans une lecture littérale. Aurobindo ne nie pas que les textes parlent de feu, d'aube, de pluie, de vaches, de guerre ou d'offrande. Il soutient plutôt que ces réalités constituent aussi les signes d'une discipline intérieure. La pluralité du langage védique est donc décisive, une même image peut participer à un rite visible, évoquer une force cosmique et désigner une opération de la conscience. Cette méthode permet à Aurobindo d'expliquer pourquoi les hymnes répètent certains motifs avec une insistance qui paraît obscure si on les traite comme de simples prières. Utilitaire. Selon lui, leur cohérence devient plus perceptible lorsque l'on reconnaît un vocabulaire symbolique transmis parmi les voyants. Le texte védique serait ainsi une expression concentrée, non un discours conceptuel moderne. Cette thèse déplace la question de la traduction. Comprendre un terme ne consiste pas seulement à lui attribuer un équivalent lexical, mais à observer ses emplois, ses associations avec d'autres images et sa fonction dans le mouvement du chant. La lecture proposée exige donc de maintenir ensemble le plan extérieur et un sens intérieur possible, au lieu de substituer mécaniquement une allégorie à chaque mot. Deuxièmement, la continuité revendiquée entre Rig Veda et Upanishads. Aurobindo cherche à contester l'idée d'une rupture nette entre une période védique supposée principalement naturaliste et ritualiste, puis une période upanishadique devenue spirituelle et métaphysique. Pour lui, les Upanishads ne créent pas soudainement les grandes intuitions indiennes relatives à la connaissance, à la lumière intérieure, à l'être conscient et à l'immortalité. Elles rendraient plus explicite une recherche déjà présente sous la forme imagée des hymnes anciens. Et l'enjeu est historique autant que philosophique. Une tradition peut changer ses formes d'expression sans abandonner son noyau expérientiel. Le passage de la poésie sacrée à des formulations plus réflexives ne prouverait donc pas une discontinuité absolue. Cette continuité repose chez Aurobindo sur les thèmes récurrents de la découverte de la vérité, de l'accession à une lumière supérieure et de la conquête d'une condition plus vaste de l'être. Il lit ces thèmes comme les étapes d'une réalisation spirituelle et non comme de simples métaphores naturelles. Cette perspective donne au Veda une place fondatrice dans l'histoire de la pensée indienne. Elle reste toutefois une thèse interprétative forte, elle demande au lecteur de juger si les rapprochements proposés éclairent réellement les textes sans effacer leurs différences de contexte, de genre et de vocabulaire. Troisièmement, les rishis et la connaissance comme conquête intérieure dans cette lecture. Le rishi n'est pas d'abord un auteur au sens littéraire moderne, ni un officiant qui inventerait des formules pour un rite. Il est un voyant qui accède à une connaissance reçue ou découverte par une transformation de ses facultés. Aurobindo insiste sur le caractère progressif de cette acquisition. La révélation ne relève pas d'un miracle arbitraire, elle est liée à une marche, à une lutte, à une préparation et à une victoire sur les limitations ordinaires de l'esprit. Les images védiques du chemin, de la montée, de la quête de la lumière et de la libération des richesses cachées prennent alors une valeur pratique. Elles décrivent symboliquement une dynamique de dépassement de l'ignorance. Cette conception éclaire également le rôle de la répétition dans les hymnes. Les formules récurrentes ne viseraient pas prioritairement l'originalité esthétique, mais la préservation d'une connaissance impersonnelle et d'un usage précis des symboles. Aurobindo présente ainsi le langage védique comme un instrument de transmission adapté à des réalités difficiles à exprimer par raisonnement abstrait. Le lecteur n'est pas obligé d'adhérer à cette conception de la révélation pour en saisir l'intérêt, elle fournit une clé cohérente pour comprendre pourquoi expérience. Paroles sacrées et disciplines de conscience sont étroitement associées dans le monde védique. Quatrièmement, le sacrifice interprété comme action de transformation. Le sacrifice occupe une place structurante dans le secret du Veda, mais Aurobindo refuse de le limiter à une cérémonie d'offrande tournée vers l'obtention de biens. de protection ou de prospérité. Il y voit l'image et le support d'une action intérieure. L'être humain engage ses forces dans une progression vers une conscience plus lumineuse. Les divinités ne sont alors pas seulement des puissances extérieures à apaiser. Elles peuvent être comprises comme des pouvoirs de vérité, de volonté, d'illumination ou d'harmonie qui aident cette progression. Cette lecture donne une unité aux scènes de lutte, de voyage et de conquête présentes dans les hymnes. Le combat ne renvoie pas nécessairement à un événement historique précis. Il peut figurer la résistance de l'obscurité, de la confusion ou de la dispersion mentale face à la recherche de la vérité. Une telle interprétation est importante parce qu'elle relie pratiques rituelles et expériences spirituelles sans les opposer frontalement. Le rite visible peut conserver une fonction, tout en renvoyant à un processus plus profond. Aurobindo propose donc une compréhension intégrale du sacrifice, où l'action, la parole et la connaissance participent d'une même orientation. La difficulté critique consiste à ne pas présumer que chaque élément rituel possède partout un unique équivalent psychologique fixe. En dernier lieu, une critique des réductions naturalistes et ses propres limites. Le livre se distingue par sa contestation des interprétations Kfong, qui voyaient dans les dieux védiques de simples personnifications des phénomènes naturels, et dans les hymnes les vestiges intellectuels d'une société rudimentaire. Aurobindo montre qu'une telle réduction explique mal la densité des correspondances symboliques et l'ambition spirituelle que la tradition indienne attribue aux rishis. Son intervention a une portée méthodologique durable, un texte ancien doit être lu selon ses propres formes de pensée, et non seulement à travers les catégories modernes de mythes, de superstitions ou de religions primitives. Cependant, la force de cette réaction fait aussi naître une limite. En privilégiant le sens intérieur, Aurobindo risque parfois de minimiser l'autonomie des dimensions cosmiques, sociales, poétiques et rituelles. Les phénomènes naturels ne sont pas forcément de simples enveloppes contingentes d'une psychologie spirituelle. Dans de nombreuses traditions, nature et esprit sont précisément pensés comme interdépendants. Cette réserve ne rend pas son travail inutile, elle en précise le statut. Le secret du Veda se lie avec le plus de profit comme une hypothèse herméneutique ambitieuse, capable de révéler des résonances négligées, plutôt que comme une clé exclusive qui clôt définitivement le sens des hymnes. La valeur du livre tient aussi à cette invitation à comparer plusieurs niveaux de lecture. En conclusion, le secret du Veda s'adresse en priorité aux lecteurs déjà attirés par la pensée indienne, le Rig Veda, les Upanishads, l'histoire des interprétations religieuses ou le yoga intégral de Sri Aurobindo. Il conviendra aussi à ceux qui veulent comprendre comment une tradition peut lire ces textes fondateurs comme les archives d'une expérience de conscience plutôt que comme de simples documents historiques. Son bénéfice intellectuel principal est d'obliger à prendre au sérieux la complexité du symbole. Le lecteur apprend à examiner les répétitions, les images et les divinités non comme des éléments isolés, mais comme les composantes possibles d'un langage cohérent. Le livre peut également nourrir une réflexion sur les rapports entre rite, poésie, révélation et connaissance intérieure. Il ne remplace pas une étude historique ou linguistique du védisme et sa lecture demande une attention soutenue. Plusieurs de ses conclusions restent discutables, notamment lorsqu'elles privilégient fortement la dimension spirituelle au détriment des réalités rituelles et cosmiques. Cette tension fait néanmoins partie de son intérêt, là où des ouvrages plus descriptifs présentent le panthéon, les cérémonies ou le contexte ancien. Aurobindo défend une thèse de lecture globale et en tire des conséquences philosophiques. Il se démarque donc par son effort pour relier les hymnes à une pratique de transformation intérieure et pour inscrire le Veda dans la continuité de la métaphysique indienne. Ultérieur, c'est un livre marquant pour qui cherche une lecture interprétative, exigeante et consciemment non réductionniste des textes védiques. Si vous souhaitez soutenir Sri Aurobindo, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.